Nous avons déjà à plusieurs reprises fouillé dans le chapitre 24 de Matthieu pour y trouver ce qui concerne les temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous notre étude de ce chapitre et voir des dimensions du message de Jésus dans Matthieu 24 qui vont nous amener jusque dans l'Apocalypse. On a vu les signes des temps, on a vu que Jésus, par le discours qui est rapporté dans Matthieu 24, nous parle de la fin. Mais on voudrait savoir combien loin on est de la fin. Si on veut savoir quelle heure il est à l'horloge de Dieu, il nous faut aller voir dans les prophéties. Et nous avons commencé avec Matthieu 24 parce que c'est une prophétie de Jésus. On a les prophéties apportées par Jean dans l'Apocalypse. On a aussi les prophéties apportées par Daniel dans son livre, qui sont des prophéties qui sont données à ses prophètes par le Christ lui-même. Mais Jésus étant sur terre nous a donné cette prophétie de Matthieu 24 et elle est importante. Mais je crois que les éléments qui sont dans Matthieu 24 nous rapprochent d'autres éléments qui sont les prophéties. Et j'aimerais regarder aussi ces éléments-là avec vous. Dans notre dernière conférence, nous avions vu que les causes principales inscrites dans les livres des prophètes, les causes qui ont amené la destruction de Jérusalem, étaient au nombre de quatre. D'abord, l'association du civil et du religieux. Deuxièmement, l'infidélité à Dieu et à sa loi. Troisièmement, des faux enseignements dus au faux prophétisme. Et quatrièmement, violence et immoralité. Est-ce que ces causes-là sont aussi présentes aujourd'hui? On va le regarder par l'aide aussi de la prophétie de l'Apocalypse. Maintenant, le point numéro 4, il est pratiquement évident. J'aimerais commencer par là. Vous voyez qu'aujourd'hui, ces éléments-là sont présents dans notre société d'aujourd'hui. Ils sont parfois même extrêmement actuels. La question de la violence et de l'immoralité est fort simple. Il n'y a pas même besoin d'être chrétien pour s'en rendre compte ou même pour s'en inquiéter. Et permettez juste un texte tiré du livre de Mark Finlay sur les prophéties. Ce livre, d'ailleurs, vous l'avez sur la table là derrière. Juste un exemple, qui est un exemple déjà un petit peu ancien, mais que je trouve intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est sûrement encore pire, évidemment. Quand un petit Américain aura atteint l'âge de 12 ans, il aura visionné 2000 meurtres à la télévision et plus de 100 000 autres actes violents. Le Parents Television Council rapporte une augmentation de 5% de la quantité des scènes de violence dans les heures de grande écoute, 30% de l'emploi de langage grossier, 42% de contenu sexuel, et ce, pour la période allant de novembre 1996 à novembre 1998, 2 ans. Donc c'est juste pour donner une idée du monde dans lequel on est et comment cette cause que nous avons notée dans les prophéties est extrêmement présente aussi aujourd'hui. Vous pourriez vous-même aller chercher les informations, elles sont partout. Ce n'est pas le propos sur lequel je voulais m'étendre aujourd'hui, mais je voudrais reprendre cet élément dont nous avons parlé hier, qui était présenté par les prophètes comme une prostitution, dans le sens imagé du terme, de cette association du civil et du religieux, que nous allons appeler aujourd'hui Église-État, pour prendre les choses plus contemporaines. J'aimerais à ce sujet-là avancer un petit peu par rapport à ce que les prophéties nous donnent, parce que cette association du civil, du religieux, de l'Église et de l'État est présentée aussi dans le livre de l'Apocalypse, avec des symboles, et qui sont assez parlants en eux-mêmes. Regardez dans Apocalypse 17, il est dit « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. » La femme, dans les Écritures, c'est l'Église. Les bêtes, ce sont les puissances. Et on a déjà là un attelage qui nous parle de cette association civile et religieuse. Et en association avec cela, on a l'autre élément qui est dans notre liste de 4 dont on parlait tout à l'heure. Dans le chapitre 19, il est dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » On retrouve donc les éléments que nous avions dans notre liste de causes de la destruction de Jérusalem et que Jésus présente a fortiori comme cause de la fin des temps, qui sont en particulier cette association du civil et du religieux et des faux enseignements, du faux prophétisme. On le retrouve dans l'Apocalypse. C'est donc intéressant de voir que les prophéties se complètent les unes les autres. Ainsi, au chapitre 13, nous avons encore une bête que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui parce que quand nous aurons terminé, nous aurons l'impression d'avoir fait un tour qui va nous ramener dans Matthieu 24. Dans Apocalypse chapitre 13, il est question d'une bête. Jean ici dit « Je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Alors on a une bête particulière qui ne ressemble pas aux autres bêtes que l'on a dans la prophétie biblique parce que c'est la seule et unique bête dans le zoo biblique qui sort de la terre. Toutes les autres viennent de la mer. Et dans le texte biblique, la mer est présentée au chapitre 17 comme étant les nations, les peuples, les tribus, les langues, mais dans une connotation plutôt négative parce que ce sont les nations, les peuples, les tribus, les langues qui sont sous la domination de la bête, justement. Tandis que la terre a une connotation beaucoup plus positive. Au chapitre 12, par exemple, de l'Apocalypse, il est parlé de la terre qui s'est ouverte pour donner secours à la femme qui était persécutée et qui était partie au désert. La terre, par contre, a une connotation beaucoup plus positive par opposition à la mer qui représente les peuples qui vont suivre la bête dans son apostasie. On a donc une bête qui sort de la terre cette fois-ci. Et les caractéristiques qui sont données dans ce texte sont contradictoires. Parce qu'elle a deux cornes semblables à celles d'un agneau, et dans la Bible, dans l'Apocalypse en particulier, l'agneau est un symbole du Christ lui-même. Mais juste après, il nous dit que cette bête-là parle comme un dragon. Et le dragon, dans l'Apocalypse encore une fois, est un symbole de Satan lui-même. Donc on a ici une puissance politique, qui va naître d'une manière différente que les autres, qui va sortir de la terre, qui a un départ positif, mais qui a des caractéristiques bizarres parce qu'elle va commencer comme un agneau et puis elle va finir comme le dragon. Un bon commencement et une mauvaise fin. Et des caractéristiques tout à fait opposées. Voilà ce que nous dit le texte. Maintenant, le même chapitre va nous donner des indications sur le moment où cette bête va apparaître. Autrement dit, le moment où cette puissance va devenir puissance, véritablement. Juste avant qu'elle apparaisse, il y avait une autre bête qui était présentée. Pas plus belle d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'indication de temps qui est donnée. Il est dit dans Apocalypse 13, versets 7, 5 à 7 et 11, « Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Puis vient le texte que nous avons vu avant, « Puis je vis monter de la terre, et c'est la bête dont on parlait tout à l'heure. » Celle qui est juste avant, nous est-il dit, va exercer sa puissance pendant 42 mois. Ça, c'est une durée prophétique que l'on connaît bien, parce qu'on la retrouve dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse sous différentes formes, ce qui nous permet de faire des croisements et de retrouver cette période dans l'histoire d'une façon assez claire. 42 mois, dans le calcul biblique qui correspond au calendrier juif, on a donc une période de 42 mois, c'est-à-dire de 1260 jours, années, ou de un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui représente exactement la même période, et que l'on connaît bien dans l'histoire, qui part de 538 avant Jésus-Christ et qui finit en 1798, une période de 1260 années, c'est une très longue période, et qui va être une période difficile de persécution pour l'Église. Grande période de persécution qui va couvrir plus de 1000 ans. On apprend que cette bête qui sort de la terre va apparaître à la fin de cette longue période. C'est après cette longue période de 42 mois ou de 1260 années ou de 3 ans et demi, un temps des temps à la moitié d'un temps, c'est à la fin de cette grande période que cette bête qui monte de la terre va devenir une puissance en elle-même. Ce qui veut dire que cette puissance ne va pas être puissance avant le début des années 1800. cette grande période dont on parlait tout à l'heure se termine en 1798. En plus de ça, cette bête dont on parle a une autre caractéristique différente des bêtes qui sont présentées dans la prophétie, c'est qu'elle n'a pas de couronne. La plupart des bêtes, c'est-à-dire toutes en fait, toutes les autres bêtes que l'on voit, ont des couronnes sur la tête et représentent par là des rois, des puissances dictatoriales d'une façon ou d'une autre. Cette bête-ci n'a pas de couronne. Elle a juste deux cornes, c'est-à-dire un symbole de puissance, mais pas de couronne. Elle sort de la terre, c'est-à-dire d'une origine différente des autres nations. Elle devient puissante à la fin de la période de 1260 années, qui se termine vers 1798. Elle n'est pas un royaume, c'est un pouvoir différent, sans couronne, disons démocratique, qui n'a pas de roi, et qui apparaît finalement tard dans l'histoire de l'humanité. Si on prend tous ces éléments-là et qu'on cherche à savoir à quoi ça correspond, il n'y a pas 36 solutions. La seule chose que l'on peut trouver comme compréhension de cette image, ce sont les États-Unis d'Amérique qui apparaissent effectivement à cette époque-là, qui sont effectivement sortis d'une, qui ont une origine différente des autres. Ce n'est pas la même origine que les autres nations et qui va apparaître effectivement sur une base religieuse. Beaucoup de ceux qui ont été les fondateurs de cette nation-là sont des gens qui, à l'origine, avaient fui les persécutions de l'Europe pour avoir dans une nouvelle terre une liberté religieuse sur laquelle ils ont voulu absolument fonder leur constitution. Et cette constitution des États-Unis commence avec des valeurs religieuses aussi. Le désir de rechercher dans la parole de Dieu des principes fondamentaux qui avaient été perdus dans la vieille Europe où les persécutions sévissaient. Le désir aussi d'avoir un nouvel environnement qui offre la liberté, et en particulier la liberté religieuse, à laquelle les fondateurs de cette nation étaient extrêmement attachés. Et d'ailleurs, cette nation-là, aujourd'hui, est un exemple intéressant d'une nation partie de pas grand-chose et qui a développé une puissance extrêmement rapidement. À peine 200 ans d'histoire, un peu plus, ont suffi pour amener cette nation à la tête du monde. C'est assez remarquable. Maintenant, le texte continue. Le texte d'Apocalypse nous donne encore des indications à propos de cette bête. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Il y a ici dans ce texte une référence évidente à un passage de l'Ancien Testament où effectivement un prophète de Dieu a demandé à Dieu par la prière d'intervenir et Dieu est intervenu en faisant descendre le feu du ciel, c'est Élie. Vous vous souvenez, Élie dans une confrontation avec les faux prophètes et les prêtres de Baal avait rassemblé le peuple et demandé au peuple de se positionner d'une façon claire par rapport à Dieu. Où vous allez avec Baal, où vous allez avec Dieu. Et Élie avait confronté ces gens avec les deux autels, un pour Dieu, un pour Baal. Et vous vous souvenez que Dieu a répondu à la prière d'Élie, le feu est descendu du ciel et a consumé l'holocauste, la pierre, l'eau, etc. Ce qui a été l'origine, à cette époque-là, d'un réveil religieux au sein du peuple. Maintenant, on a ici une référence à cet événement-là. Cette bête va jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, mais l'objectif nous est donné. Elle séduisait les habitants de la terre. Il s'agit donc ici d'un faux réveil religieux, d'un faux miracle, si on peut dire, de choses impressionnantes, mais qui ne sont pas en rapport avec un réveil, c'est-à-dire un retour à Dieu, à l'obéissance à Dieu et au plan de Dieu. Maintenant, lorsque l'on regarde l'actualité d'aujourd'hui, on se rend compte que c'est exactement ce que l'on trouve dans la nation des États-Unis. Je prends ici quelques textes qui sont tirés du journal français Le Nouvel Observateur de février 2004, qui avait pour titre « Les évangéliques, la secte qui veut conquérir le monde ». Et le reporter, qui n'est pas un croyant particulièrement, analyse cette situation avec un œil qui nous intéresse, parce que ce n'est pas un religieux qui dit ça. C'est un journaliste. Et qui, parlant des évangéliques, dit, voilà, ce sont des marginaux. Ils étaient marginaux il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est 70 millions. Une Amérique chrétienne pour sauver le monde. Université, télévision, site internet, livres, tracts, les évangéliques et leurs pasteurs vedettes disposent de grands moyens pour convertir l'Amérique et la planète entière. Et dans le même Nouvel Observateur de février 2004, l'article continue. Mi-janvier encore, le pasteur Pat Robertson, fondateur de la puissante Christian Coalition et ex-patron de la chaîne évangélique The Family Channel, annonce « J'entends Dieu me dire que l'élection en 2004 sera une explosion et que George W. Bush gagnera facilement. Peu importe ce qu'il fait, bien ou mal, Dieu le soutient car c'est un homme pieux et Dieu le bénit. » Auteur d'un manifeste au titre éloquent de The New World Order, le révérend met en exergue la vocation messianique de l'Amérique en estimant qu'il n'y aura jamais de paix mondiale avant que la maison de Dieu et le peuple de Dieu n'assument leur rôle de leadership à la tête du monde. Bon, mais écoutez, si vous n'entendez pas là un agneau qui parle comme un dragon, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Faux réveil religieux avec une ambition de conquête politique et de diriger le monde. Vous avez là le regard d'un journaliste européen sur une situation d'Amérique du Nord et qui nous donne une idée de la façon dont la prophétie d'Apocalypse 13 se réalise. Le texte continue et nous dit, Apocalypse 13, versets 14 et 15, cette bête en question séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Alors déjà en regardant ce texte, on a une indication extrêmement intéressante. C'est qu'il y a ici quelque chose de suffisamment grave pour que l'on impose dans le domaine religieux à ceux qui n'obéissent pas la peine de mort. Adorer, c'est une notion religieuse. Et ceux qui n'adorent pas ce que l'on veut doivent être mis à mort. On se rend compte ici qu'on a la conséquence classique, habituelle dans l'histoire et inévitable de l'association du civil et du religieux. On va utiliser l'un pour servir l'autre. On va utiliser la puissance civile pour imposer des lois religieuses et forcer les consciences des gens à un certain comportement religieux. Vous voyez là déjà le problème auquel on a à faire face. On est donc en plein dans notre sujet qui était l'une des causes des destructions de Jérusalem et que Jésus prenait comme étant l'annonce de ce que serait le monde à la fin. C'est donc une situation particulièrement grave qui fait référence à des événements de la vie du livre de Daniel. On a effectivement au chapitre 3 de Daniel une situation intéressante qui fait écho à ce que nous avons ici dans l'Apocalypse. Certains d'entre vous connaissent cette histoire. Nebuchadnezzar avait dressé une statue tout en or suite à la vision qu'il avait eue. Et il va demander à tout le monde, tous les représentants de son empire, de venir adorer la statue qu'il a créée lui-même. Qu'est-ce que cette statue représentait? On ne sait pas. Il y a de fortes chances, selon l'habitude du temps, qu'il avait son trône au pied de la statue. Et qu'en adorant la statue, c'était lui aussi qu'on adorait parce que c'était une mauvaise habitude de ces potentats de se prendre pour Dieu. Bref, il veut que tout le monde l'adore et il veut par ce moyen-là exercer son pouvoir. Vous remarquez que ce chef d'État va demander une adoration. On a là encore un amalgame du civil et du religieux. Et il dit, Daniel chapitre 3 verset 15, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. » Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Vous voyez à quel point Nebuchadnezzar, qui dit cela, est en train de lancer un défi à Dieu et en particulier au Dieu des Hébreux qui sont là. N'imaginez pas que votre Dieu va venir vous délivrer. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Donc, vous allez m'adorer, moi. Et si vous ne le faites pas, j'ai la capacité de vous exécuter. Voilà en gros ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire, les trois Hébreux qui sont là, tels que le texte nous le rapporte, ont décidé de garder les commandements. Car il y a un commandement qui nous dit de n'adorer que Dieu. Donc, adorez ce que vous voulez, nous, non. Le roi va leur donner une deuxième chance. Et ces jeunes gens vont dire, tu sais très bien quelle est notre position. Fais ce que tu veux. Nous n'adorerons pas ta statue. Et Dieu peut nous délivrer. Mais qui nous délivre ou qui ne nous délivre pas, c'est le même prix. Vous savez comment ces jeunes sont restés debout? Comment ils ont été amenés pour être brûlés à la fournaise ardente? Vous savez comment ce sont les soldats qui les ont amenés qui sont morts? Et dans cette fournaise, le roi Nebuchadnezzar, au lieu d'en voir trois, il en voit quatre. Et il dit, le quatrième, un visage qui ressemble au Fils de Dieu. Du coup, au lieu que tout le monde s'occupe de la statue, tout le monde s'occupe de ce qui se passe dans la fournaise. Et finalement, tous ces gens qui vont retourner dans les coins de l'empire babylonien ne vont pas parler de la statue de Nebuchadnezzar. Ils vont tous parler de ce qui s'est passé dans la fournaise ardente. Et par ce moyen-là, Dieu va répandre jusqu'au fin fond de cet empire païen la connaissance de sa loi. Trois jeunes Hébreux, parce qu'ils sont restés fidèles à la loi de Dieu, ont impressionné un empire entier, parce que Dieu les a délivrés. Une image faite là pour être adorée, une idole d'une manière ou d'une autre. Mais il y a ici quelque chose qui est caractéristique, c'est cet amalgame du politique et du religieux, l'un venant au secours de l'autre. Si on n'arrive pas à imposer des lois de conscience ou des lois religieuses, alors à ce moment-là, on va le faire avec les armes et on va menacer de mort ceux qui ne vont pas obéir à ces lois religieuses. Le texte que nous avions dans Apocalypse, qui nous parlait de cette bête qui sort de la terre, va en arriver à ce genre de choses, parce qu'il va y avoir amalgame du politique et du religieux. Être capable d'utiliser la force civile pour imposer des lois religieuses. C'est-à-dire que le mur de séparation entre l'Église et l'État doit être renversé. Vous vous souvenez que le Christ avait clairement défini les choses. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsque le Christ lui-même va être confronté aux autorités civiles au moment de son jugement à la fin, Pilate va lui demander, es-tu roi ? Il va dire, oui, c'est ce que tu as entendu. Mais il va lui expliquer, mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, disait Jésus, mes amis auraient combattu pour moi. Mais Jésus essaie d'expliquer à cet homme politique, ne fais pas de soucis, c'est pas ta place que je veux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu, le domaine religieux, cet évangile que le Christ apporte, doit être séparé, cloisonné par rapport au domaine religieux et politique qui a son domaine. Jésus avait défini les choses très clairement, mis une séparation très claire entre les deux. Un jour, deux personnes viennent voir Jésus parce qu'ils sont en dispute et ils demandent à Jésus, écoute, on a un problème pour régler nos histoires d'héritage, est-ce que tu peux venir nous aider ? Et Jésus dit, personne ne m'a établi juge dans vos affaires, débrouillez-vous, j'ai autre chose à faire que ça. Jésus va donc tracer une ligne très claire entre les affaires, le business, la politique et son royaume. Le royaume des cieux est semblable à... Et nous avons là la porte ouverte à toutes les paraboles que Jésus va donner pour faire comprendre que son royaume, c'est un royaume qui n'a rien à faire avec la politique et le business. Ce qui veut dire que si l'on veut arriver à reproduire ce qui s'est passé dans l'histoire avec Babylone, où l'on va faire périr, où l'on veut faire périr des gens pour des raisons de croyances religieuses, il va falloir que dans les temps modernes, on reproduise une image de cette situation du passé. Autrement dit, que l'on reproduise une image de ce que Babylone était autrefois. C'est-à-dire que le mur de séparation entre l'Église et l'État, entre le civil et le religieux, soit détruit. Pour que l'on puisse de nouveau utiliser la force civile pour imposer aux gens une certaine pratique, une certaine croyance, une certaine foi. Est-ce que ce sera possible? Ça nous paraît difficile de l'imaginer aujourd'hui. Pourtant, est-ce que c'est si difficile que ça, en fonction de ce que nous voyons, d'imaginer que ce mur de séparation puisse être renversé? Est-ce que ça arrivera jamais une fois? Alors, pour le savoir, on va regarder un petit peu en arrière. Parce que l'histoire des États-Unis va nous montrer que cette situation où le mur de séparation, la séparation de l'Église et de l'État, a été à deux doigts de tomber à la fin des années 1800. Et j'aimerais reprendre rapidement, juste pour vous montrer que l'histoire se répète, quelques éléments de cette page de l'histoire des États-Unis, où justement, à ce moment-là, la séparation de l'Église et de l'État a failli être annulée. Par exemple, en janvier 1864, a eu lieu la fondation du National Reform Movement, qui avait pour objectif de mettre en place tout ce qu'il fallait, de faire passer les amendements nécessaires pour que les États-Unis deviennent une nation chrétienne. Et déjà, la notion de nation chrétienne nous montre à quel point les deux choses sont associées l'une à l'autre, le politique et le religieux. Ils avaient une publication pour défendre leurs idées, ils l'ont fait pendant des années, d'une façon très claire et clairement définie, dans un journal qui s'appelle The Christian Statesman. En 1888, finalement, à la suite d'années et d'années de travail et de campagne et de publication dans ce sens-là, le sénateur Henry Blair du New Hampshire a proposé au Congrès la fameuse loi du dimanche, connue sous le nom de la Bill 2983, et qui a été abondamment discutée au Congrès en 1890. Il s'en est fallu de fort peu pour que cette loi passe, mais elle n'est pas passée. Et par conséquent, toute cette démarche qui avait été entreprise de faire des États-Unis une nation chrétienne et de renverser le mur de séparation entre le religieux et le civil n'a pas pu se faire. Quand je vois ces choses-là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la situation que Jésus a décrite dans Matthieu 24. Vous vous souvenez? Dans Matthieu 24, à partir du verset 15, Jésus disait que lorsque l'on verrait l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Qu'est-ce que cette abomination de la désolation? En regardant dans Luc 21, le chapitre équivalent, on apprenait, Luc le décrivait plus précisément, « Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées étrangères, alors que celui qui lit fasse attention, et Jésus disait, fuyez. » Et c'est bizarre parce que si les armées sont là et font le siège de Jérusalem, comment peut-on fuir? Et l'histoire a expliqué les choses parce que vous vous rappelez qu'en 66, les Romains sont venus et ont fait le siège de Jérusalem. Et Flavius Joseph avait expliqué que, d'une façon assez inexplicable, le siège a été levé et le général est parti avec ses armées. Ce qui a permis à tous les chrétiens qui connaissaient la prophétie de Jésus de faire leurs valises et de partir sans tarder. Si bien que, en 70, quand les Romains sont revenus cette fois, pas un seul chrétien qui avait prêté attention aux prophéties de Jésus n'a péri dans la chute de Jérusalem. Autrement dit, une mise en garde, une alerte. Pour certains, cette alerte, c'est le signe qu'il faut obéir au plan de Dieu. Et c'est ce que certains ont fait, les chrétiens qui étaient dans Jérusalem. Pour les autres qui étaient dans Jérusalem, ils ont dit « Mais voyez, tout va bien, Dieu est avec nous. Il a expédié les Romains loin, donc on ne risque rien. » Je retrouve dans l'histoire contemporaine une situation semblable, où l'on a une espèce d'alerte par rapport aux choses essentielles qui vont se passer à la fin. comme pour diviser encore le monde en deux camps. Ceux qui prêtent attention à la prophétie et ceux qui disent « Dieu est avec nous ». C'était écrit sur le ceinturon des soldats de Hitler, « Gott mit uns », « Dieu est avec nous ». Donc tout le monde peut dire « Dieu est avec nous dans ce qu'il fait ». Et aujourd'hui, au nom de Dieu, est-ce qu'on ne fait pas une foule de choses pour lesquelles on pourrait douter que Dieu ait quoi que ce soit à faire avec ça? Regardez ici quelques textes de l'époque qui nous montrent à quel point la chose était très avancée. Le pape Léon XIII, dans une lettre encyclique de 1885, écrivait ceci. « Tous les catholiques devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que la constitution des États-Unis soit modelée selon les principes de l'Église. » Et dans ce fameux journal, The Christian Statement, du 11 décembre 1884, il était écrit « Lorsque les catholiques seront disposés à coopérer dans la résistance contre le progrès de l'athéisme politique, nous leur tendrons volontiers la main. » Ce qui montre que les origines religieuses des uns et des autres, ce qui a coûté la vie à beaucoup de réformateurs et de gens au XVIe siècle par rapport à leur foi dans les Écritures, est complètement oublié pour atteindre cet objectif d'unir le politique et le religieux. Maintenant, je trouve extrêmement intéressant de lire dans un commentaire de la même époque, dans Tragédie des siècles, qui est de cette époque-là, ce que l'auteur dit ici. Les protestants des États-Unis seront les premiers, par-dessus le précipice, à tendre la main au spiritisme. Ils tendront ensuite la main à la puissance romaine, et sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant dans les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Le catholicisme, le protestantisme et les mondains montreront le même empressement à accepter les formes d'une piété factice et verront dans cette union un pas décisif vers la conversion du monde et l'aurore d'un millénium si longtemps attendu. Un commentaire ici de 1858. Et il me semble que je relis ce que le Nouvel Observateur écrivait en 2004. Impressionnant. Encore une fois, dans un sermon prononcé à Kansas City en janvier 1888, Sam Small, dans le livre ici rapporté par A.T. Jones, disait ceci. « Je veux voir arriver le jour où l'Église sera l'arbitre de toute la législation de la nation, des États, des municipalités, où les grandes églises de ce pays, harmonieusement unies, se prononceront sur les questions courantes et où le pouvoir législatif respectera cet avis en le transformant en loi. » Mais on a là exactement cette union totale du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Et vous remarquez que selon le souhait de cet homme, il voudrait voir l'Église dicter à l'État ce qu'il doit faire. Impressionnant. Dans le journal Christian Statement du 13 janvier 1887, le révérend Galt écrit ceci. « Notre remède contre toutes ces influences maléfiques, alcool, immoralité, syndicalisme, guerre civile, c'est simplement que le gouvernement établisse des lois morales reconnaissent en elle l'autorité de Dieu et mettent la main sur toute religion qui ne s'y conforme pas. » L'objectif, vous le remarquez, est un objectif très noble. C'est une lutte contre la dégradation de la morale et la détérioration des valeurs. Voilà l'objectif. Et dans ce sens-là, je comprends qu'on veuille faire quelque chose, déjà à cette époque-là. C'est d'ailleurs la même époque où on a une prolifération des sociétés de tempérance. On va lutter contre l'alcoolisme, on va lutter contre différents abus pour essayer de conserver des valeurs chrétiennes solides. Le problème, c'est le moyen d'y arriver. L'objectif, je peux le comprendre, parce que la Bible nous donne aussi des valeurs. Mais le moyen pour y arriver est en réalité le moyen de reproduire ce qui se produisait à Babylone autrefois. Utiliser la force, l'État, pour imposer des questions de conscience, des questions religieuses. Et vous remarquez ici, il le dit carrément, il suffira de mettre la main sur les religions qui ne s'y conforment pas. Point à la ligne. Dans le même journal, 21 mai 1885, à vrai dire, si les opposants à la Bible n'aiment pas notre gouvernement, il parlait là des États-Unis, et de ses caractéristiques chrétiennes, qu'ils aillent dans une terre sauvage et déserte, qu'ils s'y installent, établissent un gouvernement sur la base de leurs idées athées et infidèles, et s'ils le supportent, qu'ils y restent jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça, c'est une solution simple. C'est une manière de dire, et là c'est un exemple, il y en a bien d'autres de cette époque-là, où la conception de ce temps est de dire que tous ceux qui ne veulent pas se conformer à cette ligne d'action perdent leur citoyenneté. C'est aussi simple. Alors maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Ça, c'était à la fin des années 1800. Ça ne s'est pas fait, mais où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut lire ceci. Par exemple, William Rehnquist, qui était le ministre de la Justice aux États-Unis, en 1985, écrit ceci. Le mur de séparation entre l'Église et l'État est une métaphore s'appuyant sur des dérèglements de l'histoire. Une métaphore qui s'est avérée être un guide inutile pour rendre les jugements. Elle devrait être franchement et explicitement abandonnée. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus clair et de plus contemporain? Gary North, qui est une figure évangélique importante, écrit ceci dans son livre. Nous devons utiliser la doctrine de la liberté religieuse pour gagner l'indépendance des écoles chrétiennes, jusqu'à ce que nous ayons formé une génération de gens qui sachent qu'il n'y a pas de neutralité religieuse. Et écoutez ceci, la stratégie est très intéressante. Ils seront alors actifs pour construire un ordre social, politique et religieux fondé sur la Bible qui refusera finalement la liberté religieuse aux ennemis de Dieu. Alors, ce texte est extrêmement intéressant parce qu'il est en train d'expliquer l'objectif et la stratégie. Nous allons utiliser la liberté religieuse pour former un ordre social, politique et religieux. Et lorsqu'il sera fondé, nous allons à ce moment-là retirer la liberté religieuse aux autres. La stratégie est extrêmement claire. Voilà dans la direction dans laquelle cette bête montée de la terre que nous avons vue dans la prophétie s'oriente. Et il est extrêmement intéressant de voir ces textes contemporains réaliser parfaitement ce que la prophétie nous dit. Encore un texte qui est cité par Mac Finlay dans son livre « La superpuissance à venir » de Robert Grant. « Si en tant que chrétiens, nous nous unissons, nous pouvons tout faire. Nous pourrons passer des lois et des amendements, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. » Donc il ne s'agit pas ici d'une stratégie qui est cachée, qui est dissimulée. Il est présenté au grand jour quelle est l'intention de cette nation par ceux qui détiennent le pouvoir et qui ont une position religieuse bien claire. Tout le monde n'est pas dans cette ligne de pensée. Et il est intéressant de remarquer ici ce que écrit John Swanley dans The Saving of America, à la page 77, où il explique comment il voit les choses. C'est une espèce de sonnette d'alarme aussi. Les évêques catholiques romains travaillent aussi politiquement pour mettre fin à la séparation entre l'Église et l'État. Ils travaillent pour construire une alliance infernale avec les protestants conservateurs, non seulement sur la question de l'avortement, mais aussi pour avoir le soutien du gouvernement pour les écoles privées. C'est ce qu'on lisait dans la citation précédente. Les principales dénominations protestantes ont été efficacement réduites au silence par l'œcuménisme, fondé à tort sur la peur d'offenser la hiérarchie catholique. Un homme extrêmement clairvoyant sur la situation de son pays et sur la dynamique qui s'y développe et qui fait que finalement, certaines valeurs sont mises de côté pour favoriser l'amalgame de l'Église et de l'État. Est-ce possible que ce mur soit renversé? Eh bien, je pense que oui, parce que ça semble véritablement être l'intention des plus vocaux, des défenseurs de cette idée aux États-Unis. Intéressant maintenant de remarquer comment la prophétie se rattache à ce que nous voyons dans Matthieu 24. Ici, un texte qui est très différent et qui est sorti d'un livre où un chercheur fait de la recherche sur l'origine des drapeaux, des insignes, des marques que les nations se prennent. Et il écrit ceci, Whitney Smith, « L'esprit de néoclassicisme de l'Amérique de la fin du XVIIIe siècle s'est tourné vers la République de la Rome ancienne pour emprunter plusieurs symboles, tels que le nom de la deuxième chambre du Congrès, le Sénat. C'est à Rome que l'aigle a commencé à être le symbole républicain. Et c'est de là que les Américains ont choisi l'aigle comme l'emblème national en 1782. Intéressant de voir où les fondateurs de cette nation ont été chercher leurs emblèmes. On le retrouve d'ailleurs dans l'architecture que vous avez à Washington DC. On le retrouve sur ce qu'il y a dans les billets de banque. On le retrouve sur la monnaie. Et il est difficile de ne pas comparer cette monnaie romaine à gauche avec le 50 cents américain, où vous avez l'aigle tourné de la même manière, la même représentation, avec l'aigle américain, avec ses 13 flèches, avec ses 13 feuilles, avec ses 13 plumes sur les ailes, avec les 13 bandes des 13 États fondateurs, avec les 13 lettres du mot d'ordre qui est placé au-dessus. Il est difficile de ne pas faire l'association, et c'est là, en fait, dans ces emblèmes romains, que les fondateurs des États-Unis ont été chercher l'emblème de cette nouvelle nation qu'ils ont fondée, que l'on retrouve comme étant omniprésente dans le symbole des États-Unis. Maintenant, regardez ce texte. Matthieu 24, ce texte est situé à la fin du deuxième récit. À l'intérieur de Matthieu 24, vous vous souvenez, on avait parlé brièvement de la structure de Matthieu 24, trois récits qui aboutissent tous les trois au retour de Jésus. À la fin du deuxième récit, c'est-à-dire de celui qui concerne plus la chute de Jérusalem, mais la fin des temps, il y a cette phrase. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » On est donc bel et bien dans le temps de la fin. Et cette phrase est ajoutée. « En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. » Et il n'est pas difficile de comprendre que cet aigle dont nous parlons prenne pour proie les cadavres spirituels. Ceux qui sont morts spirituellement, qui ont peut-être l'apparence de la piété, comme nous dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, mais qui ont renié ce qui en fait la force, vont être la proie des aigles contemporains pour arriver à leur objectif. Intéressant de voir à quel point Jésus, dans cette prophétie de Matthieu 24, donne les éléments dont nous avons besoin, nous, à la fin des temps, pour ne pas être dupes de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Maintenant, le texte continue. Dans Apocalypse 13, il est question de cette bête qui monte de la terre et que nous avons identifiée. Et il est dit, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Il est question ici de recevoir une marque sur la main et sur le front. Alors, ce passage a donné lieu à une foule d'interprétations les plus fantastiques les unes que les autres. Et vous avez cette idée qui court et qui plaît à beaucoup de gens. « Ah, mais cette marque, ça va être une puce électronique qu'on va nous mettre sous la peau » et par laquelle on va pouvoir nous téléguider, on va nous manipuler avec... Alors, c'est l'histoire de la puce. C'est bien joli, la puce, mais je n'ai pas de puce dans ma Bible qui me permet de savoir à quoi ça correspond. Par contre, ça me met la puce à l'oreille, parce que je crois qu'il y a, dans les Écritures, ce dont j'ai besoin pour comprendre les Écritures. Si je veux comprendre les Écritures, c'est dans les Écritures que je vais aller chercher la réponse. Parce que je peux évidemment demander à tous les grands théologiens de ce monde ce qu'ils en pensent, mais je vais avoir leur avis. Je n'ai cure de leur avis. Je veux savoir ce que la Bible me dit. Et si j'ai ici une image dans le livre de l'Apocalypse, il va falloir que j'aille chercher ailleurs dans les Écritures pour en trouver la clé. Évidemment, les scientifiques d'aujourd'hui vont me parler d'une puce. Mais écoutez, je crois qu'il faut gratter ailleurs. Et les Écritures sont claires. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, il nous est dit à quoi correspond cette histoire de front et de main. Il est dit ceci, Dieu parlant à son peuple par Moïse, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Voilà les mains et les fronts. À quoi est associé ce signe sur la main et sur le front? À la loi de Dieu, au commandement dont il est question. Ainsi, il n'est pas difficile de comprendre que si cette bête, cette puissance politique et religieuse veut marquer les citoyens sur le front et sur la main, ce sera, comme nous dit le texte biblique, en rapport avec une loi, mais pas la loi de Dieu. Mais sa loi à elle, une loi religieuse ou politique qu'elle veut imposer et qui, pour être sûre d'être respectée, sera placée sous la menace de peine de mort. On est loin de la puce, vous comprenez? On est en train de parler ici de la loi de Dieu. Parce que Dieu a donné cette image, voilà, cette loi, elle doit être, nous dit le texte, dans ton cœur. Elle doit faire partie de toi-même. Elle doit être dans ta pensée, elle doit être dans tes actions, sur ton front, sur tes mains. Autrement dit, cette loi de Dieu n'est pas quelque chose que Dieu nous donne et nous impose par-dessus, c'est quelque chose que Dieu veut créer de l'intérieur, comme étant une nouvelle nature. Et on comprend à ce moment-là pourquoi Dieu veut que ce soit ainsi, parce que la loi qu'il a donnée est en fait ni plus ni moins que l'expression de son caractère. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut nous pardonner de nos fautes, nous sauver et nous transformer, c'est-à-dire reproduire en nous l'image du Christ qui est notre modèle. Par quel moyen? Par une loi qu'il veut inscrire non pas sur des tables de pierre ni sur les murs de palais de justice, mais dans nos cœurs, pour qu'elle soit notre nouvelle nature. Voilà quel est l'objectif de Dieu. Sur ton front, sur tes mains. Voilà pourquoi Dieu place ce signe-là et parle de sa loi en rapport avec cela. Maintenant, dans l'Apocalypse 13, nous découvrons une puissance politique et religieuse en même temps qui veut mettre sa loi sur le front et sur les mains de ses citoyens et veut les obliger à vivre selon ses lois et pas nécessairement les lois de Dieu. Remarquez maintenant que Jésus a déjà averti de cela. Dans son temps, c'était déjà le problème. Jésus dit ceci, hypocrite, en parlant des chefs religieux de son temps. Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Et il écrit dans Marc 7, versets 6 à 8. Il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous voyez comment ce texte fait suite à celui que nous avons lu juste avant. Jésus reprend cela et dit, mais enfin, c'est à son peuple qu'il s'adresse. Ce n'est pas aux païens, aux gens qui sont à l'autre bout du monde et qui n'ont jamais entendu parler de la Bible et de Dieu. C'est à son peuple qu'il s'adresse. Et il leur dit, Ésaïe a prophétisé sur vous, ce n'est donc pas nouveau. Et depuis, vous n'avez pas changé, vous utilisez la tradition des hommes et vous mettez dehors les commandements de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes marqué aussi sur le front et sur la main, mais par une autre loi, non pas celle de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui ont mis Jésus sur la croix. Ainsi, le texte de la Bible nous fait comprendre quel est ce signe. Dans Exode, au chapitre 31, il est dit ceci. vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Vous remarquez dans ce passage, le sabbat est présenté comme un signe. Le signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Pas un signe auquel on va reconnaître que vous êtes des bons chrétiens, des gens vraiment pieux. Non, non, non. Pas un signe qui va permettre de vous reconnaître vous, mais un signe qui va permettre de reconnaître quel est votre Dieu. Que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat est donc dès le départ, dans les Écritures, le signe par lequel on reconnaît que c'est Dieu qui nous change, que c'est Dieu qui nous sauve, que c'est l'Éternel qui nous sanctifie, qui nous transforme, et pas nous-mêmes, parce que nous n'en avons pas le pouvoir. Le sabbat est donc dès le départ, dans l'Ancien Testament, le signe du salut par la foi en Dieu, montrant que ce signe-là permet de reconnaître à quel Dieu on a affaire, à un Dieu qui est suffisamment puissant pour pardonner et pour transformer ceux qui l'acceptent. Dès l'Ancien Testament, c'est le sens du sabbat, c'est encore le sens qu'il a aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Épître aux Hébreux, et à d'autres places encore du Nouveau Testament, l'apôtre Paul explique que le véritable descendant d'Abraham, ce n'est pas celui qui l'est selon la chair, c'est celui qui l'est selon la foi. Le véritable juif aujourd'hui, selon les Écritures, c'est celui qui l'est selon la foi, pour qui ce signe est encore valable, parce que c'est par la foi en ce que Jésus a fait que nous avons compris que nous sommes sauvés. Déjà dans l'Exode, Dieu faisait comprendre le sens profond de ce signe, qui se trouve être l'un des 10 commandements dont Dieu recommandait qu'ils deviennent partie intégrante de nous-mêmes, qu'ils soient dans notre cœur et qu'ils se traduisent par nos pensées, par nos actions, le front, les mains. Quand on parle par conséquent de cette marque sur le front et sur les mains, on parle des commandements de Dieu dont le sabbat est le signe. Mais lorsque la bête en question, dont on parlait tout à l'heure au chapitre 13 de l'Apocalypse, veut mettre une marque sur le front et sur la main de ses citoyens, qu'elle va mettre une marque qui ne sera pas la marque de Dieu, mais sa marque à elle. La marque d'une tradition humaine et religieuse, pas la marque des commandements de Dieu. Et bien entendu, la marque des traditions humaines, c'est l'observation du dimanche, qui nous vient droit du paganisme, et comme on l'avait lu hier, qui est une adaptation du culte du soleil à quelque chose que l'on veut être de chrétien aujourd'hui, mais qui ne correspond en rien au commandement de Dieu. D'ailleurs, dans Matthieu 24, Jésus parle du sabbat. Il dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Bon, c'est en venant au Canada que j'ai compris ce texte, vous savez. Parce que si vous lisez ça en Europe, que votre fuite n'arrive pas en hiver, c'est pas si grave. Quand vous arrivez ici, vous commencez à prier comme ça. Hein? Mais pas un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Jésus parlait ici de ce qui allait se passer justement avant la destruction de Jérusalem. Et dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat, ni pendant l'hiver. Ça veut dire que Jésus prévoyait qu'en l'an 70, 40 ans après sa mort et son ascension au ciel, les vrais croyants seraient encore en train d'observer le sabbat. Le sabbat n'est donc pas tombé au moment de sa résurrection ni au moment de son ascension. Mais comme cette destruction de Jérusalem et dans l'esprit de Jésus en petit ce que sera la fin du monde, Jésus comprend bien qu'à la fin du monde, les vrais croyants seront encore en train d'observer le sabbat, parce qu'ils voudront aussi porter la marque du sceau de Dieu sur leur front, de l'observation de ses commandements et non pas des traditions humaines. Jésus parle ici du sabbat et montre à quel point c'est important. On pourrait se dire, mais enfin, quand c'est la panique totale dans une ville qui est assiégée, qu'est-ce qu'on en a à faire du sabbat après tout ? Non, c'était important pour Jésus. Il leur dit, mais priez donc que vous soyez en mesure d'observer le sabbat en toutes circonstances, même dans les situations les pires qui puissent exister. Et il présente ici une situation disant qu'il n'y en aura jamais de pareille. Ce qui veut dire qu'en toutes circonstances, nous sommes invités à observer aussi le sabbat. Il n'y a pas, dit Jésus, de situation dans notre vie, si catastrophique soit-elle, humainement, financièrement, socialement, qui puisse nous empêcher d'être fidèles au commandement de Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus parle du sabbat. Et vous voyez comment nous faisons là le tour en étant passés par le livre de l'Apocalypse. Les prophéties se complètent les unes les autres et nous permettent d'avoir une image vaste, complète, de ce que seront les derniers temps. Ainsi, en étudiant la prophétie, on se rend compte que le Seigneur nous appelle à être de ceux qui lisent et qui font attention. Dans Luc chapitre 21 se trouve cet encouragement que j'aimerais vous laisser en terminant. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Les signes et les causes que nous avons vus dans l'Ancien Testament et dans ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24 sont évidentes aujourd'hui dans le monde que nous vivons. Et je crois que nous pouvons prendre ce texte que nous venons de lire très au sérieux comme étant une actualité, parce que ces choses ont commencé à arriver réellement autour de nous. Je crois qu'il est par conséquent temps de relever la tête parce que la délivrance approche. Le Seigneur a peint ce tableau sous nos yeux parce qu'il veut que nous sachions quel est son plan. Nous sommes ses enfants et il veut sauver tous ceux qui lui appartiennent. Et je crois que ces descriptions qui nous sont faites par Jésus et par ses apôtres et par ses prophètes doivent nous servir aujourd'hui à faire ce qu'ont fait les vrais croyants d'autrefois, à faire attention aux paroles que le Christ a données et à être sauvés par elles. De la même manière, à la fin des temps, nous serons aussi sauvés par elles. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est véritablement un guide, une lumière sur notre sentier d'aujourd'hui. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta parole met souvent le doigt sur la blessure, que tes prophètes nous transmettent de ta part des paroles qui mettent en évidence ce qui ne va pas chez nous, ce qui ne va pas dans notre monde, ce qui ne va pas dans notre cœur. Mais Seigneur, au lieu de nous rebiffer, au lieu de nous rebeller, au lieu de nous en aller, d'oublier ce que tu nous as dit, nous voudrions prendre à cœur ces choses et te demander de nous donner la force de nous relever, de changer ce qui est à changer et de marcher dans ton plan. Seigneur, nous reconnaissons que le temps est court. Nous voyons les choses dans ce monde évoluer à une grande vitesse et nous voudrions, Seigneur, que tu travailles aussi à grande vitesse dans notre cœur pour que chacun d'entre nous, averti de ton plan pour la fin des temps, soit prêt pour recevoir le Seigneur Jésus et heureux de voir celui avec qui nous parlons chaque jour dans la prière, à qui nous demandons chaque jour dans la prière la force pour être aujourd'hui des vrais témoins de Jésus-Christ. Accorde-nous ces grâces que nous te demandons en son nom. Amen.